إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui de méditer sur certains passages du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des récits des communautés passées. Et comme on l'a dit dans le premier cours, l'objectif à travers cela n'est pas simplement de prendre connaissance de ces récits, mais l'objectif est pour nous de les méditer afin d'en tirer des leçons et des enseignements profitables à mettre en pratique dans notre quotidien, incha'Allah ta'ala. Nous avons vu dans les deux premiers cours le récit de la création de Adam alayhi salam, ainsi que la ruse du diable contre lui et son épouse, jusqu'à les faire sortir du paradis. Une fois sur terre, Adam alayhi salam et son épouse eurent des enfants, et on dit qu'à chaque grossesse, Hawa accouchait de jumeaux, un garçon et une fille. Et une fois adulte, Adam alayhi salam mariait ses fils aux filles nées d'une autre grossesse. C'est-à-dire qu'il ne les mariait pas entre frères et sœurs jumeaux, mais il les mariait avec les enfants nés d'une autre portée. Étant donné qu'il n'y avait pas d'autres femmes, les premiers fils d'Adam pouvaient donc se marier avec la femme qu'ils voulaient parmi leurs sœurs, à l'exception de leurs sœurs jumelles. Et parmi ces enfants, il y eut Habil et Qabil. On rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Adam alayhi salam de marier Qabil à la sœur de Habil, et de marier Habil à la sœur de Qabil. Habil, quant à lui, il accepta cela, il fut satisfait. Mais Qabil, qui était plus âgé, il refusa. Et ce car sa sœur était dotée d'une plus grande beauté que la sœur de Habil. Et il la désirait pour lui-même. Adam alayhi salam lui dit donc qu'elle ne lui était pas licite, et qu'il n'avait pas le droit de l'épouser. Et il lui ordonna de la marier à Habil, mais il persista dans son refus, et prétendit être plus en droit de l'épouser. Il pensait que cet ordre ne venait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'était seulement une initiative de la part de Adam alayhi salam. Suite à cela, Adam alayhi salam, afin de trancher dans ce différend, leur ordonna à tous deux de faire une offrande. Et il leur dit que celui dont l'offrande serait acceptée serait alors le plus en droit de se marier avec elle. Et c'est ce récit dont il est question, à partir du verset 27 de Surat al-Ma'ida, que nous allons lire et méditer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala commence donc par dire au verset 27, « Watlu alayhim naba'a bnai Adam bilhaq » et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam, c'est-à-dire Habil et Qabil, qui comme on a dit étaient en désaccord concernant le mariage de Habil avec la sœur de Qabil. « Id qarraba qurbana » lorsqu'ils offrirent respectivement une offrande. Comme Adam alayhi salam leur avait ordonné, ils vinrent tous deux avec une offrande. Et à cette époque, lorsqu'une offrande était acceptée, un feu descendait du ciel et la brûlait. Et si elle n'était pas acceptée, aucun feu ne descendait, mais elle était mangée par les oiseaux et les animaux sauvages. Ils sont donc tous deux sortis avec leur offrande, et Qabil possédait une exploitation agricole. Il présenta alors en offrande une botte de céréales de mauvaise qualité. Il ne se souciait pas de savoir si ceci sera accepté de lui ou non. Mais il voulait seulement se marier avec sa sœur et que Habil ne puisse pas se marier avec elle. Quant à Habil, il possédait un troupeau de moutons. Il présenta alors en offrande le plus beau de ses béliers avec pour intention d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherchait par cette offrande à satisfaire son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils posèrent donc tous deux leurs offrandes en haut d'une montagne. Puis Adam alayhi salam invoqua et un feu descendit alors du ciel et brûla seulement l'offrande de Habil. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset « فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ » On accepta de l'un, c'est-à-dire de Habil, et on n'accepta point de l'autre, on n'accepta point de Qabil. Seule l'offrande d'Habil fut acceptée, alors que l'offrande de Qabil fut rejetée. Ils sont alors descendus de la montagne, et Qabil était pris de jalousie et de colère à l'égard de son frère. Il lui dit alors « La'aqtulannak, je vais certes te tuer ». Pourquoi il veut le tuer? Car Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'offrande de son frère et n'a pas accepté la sienne. Donc, Habil allait se marier avec sa sœur qui était dotée d'une grande beauté et qu'il voulait épouser. Il était donc jaloux de son frère, alors que son frère ne lui avait causé aucun tort ni aucune injustice. Habil lui répondit alors « Innama yataqabbalullahu minal muttaqin » Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est-à-dire, quelle faute et quel péché ai-je commis pour mériter que tu me tues? Si ce n'est que j'ai fait preuve de piété pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire preuve de piété nous est demandé à tous. Toi aussi tu aurais dû faire preuve de piété, mais tu ne l'as pas fait. En effet, la piété est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous adressé. Et ce qui est visé par la piété ici, c'est le fait d'être sincère dans ses œuvres, en les vouant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et en les accomplissant conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Car ceci sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. Et aucune œuvre ne peut être acceptée de toi sans cela. Premièrement, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, la conformité à la législation, c'est-à-dire en ce qui nous concerne à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on va revenir sur ce point avec plus de détails lors de l'énumération des enseignements de ce récit, incha'Allah ta'ala. Habil répondit ensuite à Qabil qu'il ne lui répondrait pas à sa menace, ni pour se défendre, ni pour s'en prendre à lui ou l'attaquer. Il lui dit « La imbasatta ilayya yadak li taqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka li aqtulak. » Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Pourquoi il ne s'en prend pas à lui? Est-ce par lâcheté? Est-ce par faiblesse? Est-ce par peur de Qabil? La réponse est non. Il lui explique la raison et lui dit « Inni akhafu Allah rabbal alamin » Je crains Allah le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'empêche de m'en prendre à toi ou de te faire du mal. En effet, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle est véridique, elle va te pousser à délaisser les péchés et les mauvaises actions, à ne pas enfreindre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ne pas être injuste envers les créatures. Le fait de dire « je crains Allah, j'ai peur d'Allah », ce ne sont pas seulement des mots sur ta langue, mais cela doit se concrétiser à travers tes œuvres. Cette crainte, elle doit se manifester. Et comment elle se manifeste? Par le délaissement des péchés, par le délaissement des mauvaises actions, par le délaissement de l'injustice, en ne causant aucun tort aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en enfreignant aucun interdit parmi les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a donc rappelé tout cela afin de le dissuader. Il lui rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des pieux, et que lui, il ne va pas s'en prendre à lui car il a peur d'Allah. Et ceci vous fait penser à quoi? Ceci fait penser à ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on nous insulte alors que l'on jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il fasse preuve de quiétude et qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si on l'injurie ou l'attaque, qu'il réponde « Inni sa'im, je suis jeûneur, je jeûne ». C'est-à-dire, je pourrais te répondre à ton insulte. Je pourrais aussi m'en prendre à toi. Mais étant donné que je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais pas te répondre. Pourquoi? Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en ce sens que Habil a répondu à Qabil « Inni akhafu Allah rabbal alamin » Je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je pourrais m'en prendre à toi. Je pourrais moi aussi te faire du mal, mais je ne t'en fais pas. Pourquoi? Car je crains Allah. Ensuite il lui dit « Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik » Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. C'est-à-dire que si on doit en arriver à cela, que tu vas me tuer, je préfère être tué que de te tuer. Je préfère être la victime de l'injustice qu'être moi-même l'injuste. Et ceci également nous fait penser à une recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith « Sois le serviteur d'Allah tué et non pas celui qui tue. Sois le serviteur d'Allah opprimé et non pas celui qui opprime. Il est préférable pour toi d'être victime d'une injustice plutôt que d'être l'injuste. Car si tu fais preuve de patience, tu trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette patience. Mais si tu es injuste, alors tu porteras le fardeau du péché de ton injustice. » Donc ici, il l'avertit qu'il portera ainsi un double fardeau. Le fardeau de ses péchés et le fardeau du péché d'avoir tué son frère. Puis il lui dit, فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Tu seras alors du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Ceci nous prouve que le meurtre fait partie des grands péchés, dont l'auteur est sous la menace du feu de l'enfer s'il ne s'en repent pas avant de mourir. Car telle est la situation de l'auteur des grands péchés. Tant qu'il est sur l'islam, qu'il meurt musulman, s'il commettait des grands péchés, desquels il ne s'est pas repenti avant de mourir, alors il se trouvera au jour de la résurrection sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché puis le fera entrer au paradis pour son islam. Et telle est la croyance des gens de la sunna concernant le statut de l'auteur des grands péchés. Donc malgré ce rappel, Habil n'arriva pas à dissuader son frère. Et Qabil, poussé par son âme incitatrice au mal, commit le grave péché de tuer son propre frère sans aucun droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Ici-bas et dans l'au-delà, il fut ainsi le premier homme à commettre ce crime sur terre. Et c'est pour cela qu'il porte le fardeau de tout meurtre commis jusqu'au jour de la résurrection. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui instaure une mauvaise pratique en portera le fardeau ainsi que le fardeau de tous ceux qui l'ont suivi en cela jusqu'au jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui est tuée sans que le premier fils de Adam n'emporte une part de responsabilité, car il fut le premier à commettre ce crime. On voit donc ici le danger d'être un exemple dans le péché et dans le mal. Après avoir tué son frère, Qabil ne savait pas quoi faire de son corps, car Habil était le premier homme à mourir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Un corbeau se mit à gratter la terre pour mettre sous terre un autre corbeau qui était mort. Il lui montra donc qu'il convient de mettre sous terre la dépouille de son frère. En effet, toute dépouille, que ce soit les dépouilles humaines ou les dépouilles animales, il convient de les mettre sous terre, à l'abri des regards, afin qu'elles ne portent aucune nuisance. Donc Habil fut le premier homme à être enterré. Ensuite Qabil dit, « Ya waylata a'ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab, fa'uwariya saw'ata akhi, fa'asbaha minan nadimin. » Il dit, « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. » Telle est la situation dans laquelle se trouvent les auteurs des grands péchés. Ils sont dans la perdition, les regrets et les remords, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On tire donc de ce récit de nombreux bénéfices et enseignements. Premièrement, on voit une fois de plus le danger de la convoitise. On a vu dans le cours d'hier que la convoitise, elle peut mener la personne à commettre des péchés. Et regardez ici comment la convoitise a poussé Qabil à tuer son frère. Il convoitait sa sœur et souhaitait l'épouser, et ceci l'a poussé à en venir à tuer son frère. Donc comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, il convient aux musulmans de toujours être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui. Tu dois être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu permis pour toi, satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu interdit pour toi, et également satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé et t'a facilité parmi les biens de ce bas monde, et satisfait de ce dont il t'a privé. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu ne sais pas. Il sait ce qui est bien pour toi, il sait ce qui est nuisible pour toi. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait, tu te dois de faire preuve de reconnaissance envers lui. Et lorsqu'il te prive d'une chose que tu désirais, tu te dois de faire preuve de patience face à cela, et être satisfait du décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce récit, et c'est un enseignement immense, c'est le danger de la jalousie, al-hasad, l'envie. Cette maladie qui est une très dangereuse maladie, et un très grave défaut, qui consiste à souhaiter la disparition du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celui à qui il l'a accordé parmi ses créatures. Et al-hasad, la jalousie, c'est une forme d'objection à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui envie les autres, c'est comme s'il n'était pas satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé aux autres. Et comme l'ont mentionné les gens de science, ceci est une caractéristique des juifs et des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, au verset 109 de Surat al-Baqarah, « وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ » Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des juifs qui ont envié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullahu min fadlih » Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Tous les bienfaits dont tu jouis dans ce bas monde, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits dont jouissent tes frères et sœurs, c'est aussi une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. Il ne te convient donc pas de les envier, ou de souhaiter qu'ils soient privés de ces bienfaits. Car en faisant cela, c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété. Et si tu ressens cette maladie en toi, il t'incombe de tout faire pour t'en débarrasser. Tu dois chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette maladie. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse sortir de ton cœur ce sentiment. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse ce qu'il a accordé à tes frères et sœurs. Lorsque tu vois quelque chose qui te plaît chez un de tes frères ou une de tes sœurs, il te convient d'invoquer en sa faveur la bénédiction. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui bénisse par exemple cette maison, cette voiture, cette science qu'il a apprise ou autre parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pu lui accorder. Et en faisant cela, ceci sera une cause afin de le préserver de ton mauvais œil. Quant à celui qui est envié, celui qui est victime de cela, afin de se préserver, il lui suffit de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de l'envieux, notamment en étant assidu au adhkar, parmi les adhkars du matin et du soir, et ainsi de suite. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné 10 causes qui permettent de repousser de toi le mal de l'envieux. Et on va mentionner ces 10 causes, incha'Allah ta'ala, avec de brèves explications. La première cause, il dit, c'est que tu cherches refuge auprès d'Allah pour qu'il te protège contre son mal. Car tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seul Allah est capable de te protéger du mal de ses créatures. Donc, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te protège. La deuxième chose, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'observation de ses recommandations et de ses ordres. C'est-à-dire que tu fasses preuve de piété, que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'écartes de ses interdits, que tu te concentres sur ta situation, la réforme de ta propre personne, que tu cherches à améliorer ta situation en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres. La troisième cause, c'est que tu fasses preuve de patience face à lui et que tu ne lui causes aucun préjudice. Tu ne cherches pas à lui causer du tort. À l'exemple de Habil, mais tu fais preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il te cause du tort, mais tu ne lui en causes pas. Même si tu sais qu'un tel ou un tel t'envie, tu ne dois pas chercher à lui causer du tort ou à lui faire du mal. Mais tu patientes face aux nuisances qu'il peut te causer. Et tu espères en cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième cause, c'est d'avoir une forte confiance en Allah. C'est-à-dire que tu places ta confiance totalement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as la ferme conviction que aucun mal ne peut t'atteindre si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'envieux ne peut te causer aucun tort, sauf si Allah le veut. Donc, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième cause est que ton cœur ne soit pas préoccupé par l'envieux et que tu ne penses pas à lui. Car comme on a dit, il ne peut rien faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi te soucier de lui? Il y a des personnes, lorsqu'elles sont enviées, elles passent ensuite leur temps à parler de cette autre personne qui leur a causé du tort ou qui les a enviées ou les a jalousées. Au risque de tomber par la suite dans une plus grande injustice. Car si tu parles sans cesse de lui, que tu le mentionnes en mal, tu risques certainement de tomber dans la médisance. Il se peut même que tu outrepasses les limites et que tu tombes dans la calomnie, que tu mentes à son sujet, que tu exagères. Donc, parmi les remèdes pour te protéger, il y a que tu ne penses pas à lui, que tu ne t'en soucies pas. Tu as la ferme conviction que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'aucun tort, aucun préjudice, aucun mal ne peut t'atteindre si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sixième cause, il dit l'empressement vers Allah. C'est-à-dire que ton cœur, il est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, tourné vers l'adoration d'Allah, il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne t'attaches pas à ses créatures, tu ne t'attaches pas aux causes matérielles, mais tu t'empresses et t'orientes seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala en te détournant de tout autre que lui. La septième cause, qui est également une cause très importante, il dit, rahimahullah, le repentir des péchés, qui sont la cause de la domination de ses ennemis sur lui. Allahu Akbar. Si le mal de l'envieux t'a atteint, c'est à cause de tes péchés. Tout mal qui t'atteint ici-bas, c'est en raison de ce que tes mains ont commis. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Aucun malheur ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vos mains ont acquis. Donc, lorsque une personne te cause du tort, lorsqu'un envieux te cause du tort, qu'il te jalouse, qu'il te dénigre, qu'il ment à ton sujet ou autre, au lieu de te préoccuper de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, rappelle-toi que ce mal ne t'a atteint qu'en raison de tes péchés. Donc, remets-toi en question, fais un bilan avec toi-même, réforme-toi, réforme ta situation, et repens-toi de tes péchés. Car c'est en raison de tes péchés que son mal t'a atteint. Donc, au lieu de te préoccuper de lui, préoccupe-toi de ta propre situation et repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes, dès qu'un malheur leur arrive, il tombe malade, il a un accident, sa voiture est cassée, ou il perd un objet, tout de suite il dit « Ah, on m'a envié, c'est le mauvais œil ». Et il se met à penser du mal de ses frères et sœurs. C'est lui, quand il est venu, il a vu ma voiture, j'ai vu son regard. Cela se voit qu'il m'a envié. Ou alors, celle-ci est venue chez moi et j'ai vu qu'elle regardait mes meubles ou qu'elle regardait ceci et cela, c'est elle qui m'a envié. Et ceci est une erreur. Avant de penser du mal de tes frères et sœurs, rappelle-toi que ce mal qui t'a atteint est en raison de tes péchés. Donc remets-toi en question et délaisse les mauvais soupçons et les mauvaises opinions à l'égard de tes frères et sœurs. La huitième cause que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné est de donner des aumônes et de faire preuve de bienfaisance autant que possible. Car l'aumône est une cause pour dissiper les épreuves et les malheurs. Et il dit neuvièmement, faire spécifiquement preuve de bienfaisance envers l'injuste envieux. Celui qui a été injuste envers toi, tu es plus spécifiquement bienfaisant envers lui. Et il n'y a pas de doute que ceci demande de la patience. Et cette orientation nous a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre lorsqu'il dit « وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. « اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Repousse le mal par ce qui est meilleur. « فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Tu repousses le mal par le bien. Il te fait du tort, il te dénigre. Mentionne-le en bien. Dis-lui des belles paroles. Il t'a fait du tort, fais-lui du bien. Il t'a privé, donne-lui, et ainsi de suite. Repousse le mal par le bien. Et tu verras que ceci sera une cause immense pour faire cesser son mal. Enfin, la dixième cause qu'il a mentionnée, rahimahullah, et cette cause, elle réunit tout ce qui précède, c'est la concrétisation du tawhid. C'est-à-dire que tu ne dois plus penser aux causes, mais que tu penses seulement au créateur des causes, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il t'arrive un mal, tu ne te préoccupes pas de la cause de ce mal, mais tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette cause. Donc tu t'orientes vers lui, tu l'invoques, tu lui voues un culte exclusif, tu te repens à lui, et ainsi de suite, parmi les œuvres de bien. Ceci sont donc 10 causes, qui si tu les mets en pratique, repousseront de toi le mal de tout envieux, bi'idhnillahi ta'ala. Revenons donc aux bénéfices et aux enseignements que l'on tire de ce récit. Le troisième enseignement est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des pieux. Et on a vu que ce qui est visé par la piété, c'est que ton œuvre soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est-à-dire que toutes tes œuvres, elles doivent être basées sur ces deux fondements immenses. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu accomplis une œuvre de bien, tu l'accomplis pour obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense. Tu ne dois pas chercher à travers tes œuvres les compliments des gens, ou alors un bien vil parmi les biens vils de ce bas monde. Mais lorsque tu as accompli une œuvre de bien, une prière, une aumône, le jeûne et autres parmi les bonnes actions, tu ne dois rechercher à travers celles-ci que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'es pas sincère dans cette œuvre, alors cette œuvre sera rejetée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui accomplit une œuvre, en m'associant dans celle-ci autre que moi, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association, c'est-à-dire que l'œuvre elle est rejetée. Celui qui prie pour rechercher les compliments des gens, sa prière est rejetée. Celui qui donne une sadaqa pour qu'on dise qu'il est généreux, son aumône est rejetée. Celui qui lit le Coran devant les gens pour qu'on dise qu'il a une belle récitation, celui-ci, son œuvre est rejetée, et ainsi de suite. Il t'incombe d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de tes œuvres. Et ceci n'est pas suffisant. Car la deuxième condition est que tu te conformes dans cette œuvre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce qu'il a légiféré dans son livre et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aussi sincère sois-tu, si tu accomplis une œuvre qui est innovée, alors celle-ci sera rejetée. Si tu accomplis une prière qui n'est pas légiférée, que tu jeûnes d'une manière qui n'est pas légiférée, que tu pries d'une manière qui n'est pas légiférée, que tu accomplis une quelconque œuvre cherchant à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré. Même si tu es sincère pour Allah, cette œuvre est rejetée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, d'après notre mère Aisha radiyallahu ta'ala anha, celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, son œuvre sera rejetée. Celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, une innovation, une chose nouvelle en religion, celle-ci est rejetée. Aussi sincère soit son auteur. Donc ceci sont deux points très importants que tu dois toujours avoir en tête avant d'accomplir une œuvre par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et te conformer dans cette œuvre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au Coran et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième enseignement, la quatrième leçon que l'on tire de ce récit, c'est la gravité du meurtre. Le meurtre qui est un grave péché en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après la mention de ce récit, min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Donc le fait de tuer une personne de non-droit, ceci fait partie des grands péchés desquels il incombe aux musulmans de s'éloigner. Enfin, le cinquième bénéfice, le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est le danger d'instaurer de mauvaises pratiques. En effet, médite sur ce qui est arrivé à Qabil, qui fut le premier à commettre le meurtre. Il porte le fardeau de tout meurtre qui sera commis jusqu'au jour de la résurrection. Tu te rends compte du fardeau immense qu'il va porter. Donc, si tu médites sur cela, tu prendras alors conscience de la gravité d'être un modèle dans le mal et le péché. Toute personne qui fait des péchés publiquement et qui, par conséquent, incite d'autres personnes à faire ce même péché, elle portera le fardeau de ceux qui l'ont suivi dans ce péché. Toute personne qui propage des choses incitant au mal sur Internet, sur les réseaux sociaux, incitant au péché, elle portera le fardeau de tous ceux à qui ces paroles ou ces messages sont parvenus et qui les ont suivis. Donc il est très important de méditer sur cela et de faire attention à ce que l'on propage, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Certaines personnes aujourd'hui ne se rendent pas compte des répercussions que peuvent avoir un simple message qu'ils postent sur Facebook ou sur Twitter ou autre. Il va propager par exemple un mensonge, une information qui n'est pas vérifiée. Pire encore, un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith inventé. Il le reçoit, il le trouve profitable, il n'a pas les aptitudes pour vérifier si cela est vrai ou faux. Il le transmet. Et ce message va parvenir à d'autres personnes. Et ainsi de suite. Toutes les personnes qui l'auront reçu après toi, tu en seras responsable. et c'est toi qui porteras le fardeau de leurs péchés, sans que cela ne diminue en rien leurs péchés. Donc il faut prendre conscience que ces réseaux, ce n'est pas sous prétexte que tu transmets ces messages d'un simple clic que ceci n'a pas de conséquences. Mais les conséquences, elles peuvent être gravissimes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il incombe à chacun d'entre nous de se remettre en question et de s'éloigner autant que possible de ces réseaux et autres, si ce n'est pour propager le bien pour ceux, bien sûr, qui en ont les aptitudes. Et de la même manière, tu te dois d'être, à travers ton comportement et tes œuvres, un modèle de bien et non pas un modèle de mal, notamment au sein de ton foyer. Être un modèle de bien pour tes enfants, un modèle de bien pour ton épouse, un modèle de bien pour tes frères et sœurs, un modèle de bien pour tes amis. Si tu les appelles au bien et les encourages au bien, et qu'ils te suivent dans le bien, alors tu auras de grandes récompenses. Car celui qui instaure une bonne pratique, il aura la récompense de son œuvre et la récompense des œuvres de ceux qui l'ont suivi en celle-ci. Mais si tu as un modèle de mal, que tu as un mauvais comportement, que tu parles mal, que tu fais des péchés devant les gens, devant tes amis, devant tes enfants, et qu'ils te suivent en cela, alors tu porteras le fardeau de ton péché, ainsi que de leur péché, de tous ceux qui t'ont suivi en cela. Donc médite sur cela, et fais des efforts pour te réformer, pour réformer ton comportement, et pour être une clé de bien, et un verrou face au mal, et non pas l'inverse, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister en cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on verra dans la prochaine assise le récit de l'apparition du shirk dans le peuple de Nuh, alayhi salam. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.